Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences de l'actrice américaine Nathalie Portman au micro de Stéphane Woodsock. Dès mercredi en salle, elle sera Jackie, la veuve du président Kennedy. Rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des places de cinéma. Francis Weber a trouvé un nouveau rôle pour son personnage fétiche de Pignon. Il réapparaît en poisson rouge dans la nouvelle pièce de théâtre Un animal de compagnie. Monique Younes a demandé des explications à l'auteur et on la comprend. Une idée de lecture avec Bernard Lehu, Un fils parfait, le nouveau roman de Mathieu Ménégaud qui raconte le combat d'une mère contre la machine judiciaire. Nous retrouverons Charlotte Arrigoni pour ses express. Et puis à la télévision ce soir, France 3 propose un portrait de Jean-Luc Mélenchon signé Gérard Miller. Isabelle Morini-Bosque nous en donnera un avant-goût.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Nathalie Portman sera sans doute la rivale la plus dangereuse d'Isabelle Huppert pour l'Oscar 2017 de la meilleure actrice. Verdict le 26 février à Los Angeles. Bonjour Stéphane Boutsov.
Bonjour à tous.
Nathalie Portman est nommée pour son rôle dans Jackie, film qui sort mercredi chez nous et dans lequel la star américaine incarne bien entendu la veuve du président Kennedy.
Alors c'est une vraie performance comme les aiment les Américains et l'Académie des Oscars. Le film débute quelques semaines après l'assassinat de JFK à Dallas le 22 novembre 1963. Jackie reçoit le journaliste Theodore H. White du magazine Life et se confie pour la première fois après le drame un entretien durant lequel l'ex-First Lady va minutieusement bâtir la légende de son défunt mari avec une volonté. Quelles que soient les fautes publiques et intimes de Kennedy, elle veut qu'il entre dans la légende. Jackie est donc un film volontairement froid, magnétique, fascinant et il repose sur les épaules, jolies épaules de Nathalie Portman qui s'est laissée envahir par l'ombre du personnage.
When you're playing someone who's so well known,
quand vous devez incarner une personne si méconnue, il vous faut pousser plus loin vos compétences, au-delà de la manière dont elle bouge, parle ou ce à quoi elle ressemble, afin d'embarquer les gens au cœur du film. Alors bien sûr, émotionnellement, c'est une expérience assez rude qu'il est difficile de vivre réellement, car bon, bien entendu, nous avons tous des soucis, des drames dans la vie, mais à cette échelle-là et aux yeux du monde entier, elle est sans doute la seule personne de l'histoire à avoir vécu cela. Alors oui, tenter de ressentir ce qu'elle a pu ressentir était plutôt extrême.
Alors la difficulté de l'exercice, c'est que Jackie Kennedy est une des personnalités à avoir la plus été épiée par les médias et donc par le public avant, pendant et aussi après sa vie avec JFK. Comment contourne-t-on l'obstacle ?
We really know Jackie as an icon, as someone.
On connaît surtout Jackie en tant qu'icône, comme une personne qui ne montre que la façade d'elle-même, mais pas en tant qu'être humain. Et ce film dévoile sa véritable humanité, ce qu'elle pouvait vraiment ressentir loin d'un processus de fabrication d'images. Je crois que cela la réhabilite et que ça l'éloigne de cette sorte d'objet médiatique qu'elle est devenue pour tant de gens pendant si longtemps. Vous savez, sa coupe de cheveux, ses vêtements, sa grâce, mais jamais l'esprit, l'âme, son humanité.
Cette humanité dont parle Nathalie Portman, Stéphane, elle transparaît vraiment dans le film.
Oui, et c'est pourquoi sa performance est remarquable. Le journaliste du magazine Life qui interviewe Jackie s'attend à rencontrer une femme dévastée, aux abois, mais derrière le choc qui est encore présent, évidemment, de l'assassinat, il découvre une machine de guerre dont l'unique ambition est de perpétuer l'héritage de son époux. Un parti pris passionnant qu'a choisi le metteur en scène du film, Pablo Larraín. Pour y parvenir, selon Nathalie Portman, le réalisateur avait un atout essentiel.
L'une des choses les plus intéressantes, c'est qu'il n'a pas la déférence qu'ont les Américains envers les Kennedy. Il est chilien et donc il ne les considère pas, lui, comme une famille royale. Ça lui a permis d'approcher les choses plus simplement. Nous ne faisions pas un documentaire, mais un film, une représentation de qui elle était. Nous avons donc fait beaucoup de recherches en alimentant ce projet d'éléments très simples.
Alors plusieurs fois, au cours du film Jackie, quelques flashbacks nous permettent de retrouver le vrai couple Kennedy dans l'exercice du pouvoir. Et on voit à l'écran des extraits d'un documentaire qui date de 1962, donc un an avant le drame de Dallas. Jackie Kennedy fait visiter la Maison Blanche à des équipes de CBS et NBC. C'est la vraie voix de Jackie Kennedy. Hein. C'est une grande première à l'époque. Jackie vient de faire rénover la résidence des présidents américains, qui était en piteux état. grâce à des mécènes et au talent d'ouvriers français. Or, ces scènes-là sont montées avec la reconstitution des lieux tournés à Paris, à la Cité du cinéma. Nathalie Portman.
The White House...
Le fait de construire la Maison Blanche ici à Paris a été incroyable parce qu'on y trouve les artisans qui font des sculptures, des moulures, toutes sortes de peintures. Et tout cela a été importé de France par Jackie pour redécorer la Maison Blanche. Donc il était tout à fait légitime que ceux qui perpétuent ces techniques et qui sont encore capables de les appliquer se retrouvent sur ce projet. C'était fascinant de les regarder travailler.
C'était incroyable de voir ce qu'ils ont fait et la scale de tout.
Nathalie Portman, remarquable, vraiment, dans Jackie de Pablo Larraine. Ça sort donc au cinéma mercredi.
Et nous vous offrons ce matin des places pour aller découvrir ce film, vous aussi. Il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
À quel grand magazine américain Jackie Kennedy a-t-elle accordé l'entretien qui sert de trame au film ? Était-ce le magazine Life ou le magazine Time ?
Réponse au 32-10. Dans quelques instants, les audiences de notre week-end télévisé et notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nos audiences télévisées du week-end avec vous et avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, vendredi, c'est une nouvelle fois la série de la 2 Shérif qui l'emporte avec 4 415 000 fidèles devant NCIS et ses 3 350 000 curieux qui voulaient voir Michelle Obama invité de l'épisode du jour sur M6. Samedi, TF1 se refait, comme on dit, grâce à Arthur et ses stars sous hypnose, en tête avec quasiment 4 millions de curieux. Et TF1 garde la main hier, si j'ose dire, avec bien sûr d'abord le score spectaculaire du match de hand retransmis à 17h30. 8 670 000 téléspectateurs. Vous voyez, on avait dit entre 8 et 9. Eh bien, on est pile poil dans le créneau. 44% du public sur la une, avec bien sûr un pic à 1 million et quelques de plus au moment de la fin, si j'ose dire. Et alors, TF1 est toujours en tête à 20h50, mais alors là, pour le coup, il y a beaucoup de chutes. 4 300 000 personnes étaient devant le film déjà vu sur la 1, devant Brokenwood sur la 3. Donc, bon week-end pour TF1.
On passe à notre soirée télévisée et vous vous intéressez ce matin à Jean-Luc Mélenchon, à qui France 3 consacre un portrait ce soir à 20h55.
Oui, et comme on le disait à 6h20, je l'ai d'abord regardé par obligation légale professionnelle, petit a, parce que Jean-Luc Mélenchon insulte trop à mon goût, même si c'est un formidable tribun à une époque qui en manque, et petit B, c'est signé Gérard Miller, pas franchement réputé pour sa neutralité. Lui, le militant d'extrême gauche, qui dit quasiment à Mélenchon par principe gauchiste. Il donne tout de même la parole à notre camarade Alain Duhamel, qui après un discours mélenchoniste, juge le patron de la France insoumise.
Qu'attendent ces bons à rien, les Sarkozy, les Fillon et toute cette berline.
Il s'exprime très bien, il sait qu'il a un charisme, il a un ascendant, il intéresse, il perturbe. Il n'a pas besoin d'insulter. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de dire, je trouve que son bilan est épouvantable, je trouve que ses méthodes de gouvernement ne sont pas acceptables. Enfin, des choses dures en elles-mêmes. Mais on a l'impression qu'il a besoin d'écraser ce qu'il combat. Le journaliste, il les méprise en tant que corporation, et individuellement, en général, il les déteste. Ce qui est bien, c'est qu'on se sent pas seul. C'est toujours un peu désagréable si on a l'impression à un moment qu'on est seul à être détesté par quelqu'un. Lui, non, on est tous détestés.
Ah bah oui, dit comme voilà. Ça, c'est mieux.
On découvre aussi un personnage plus délicat et attachant qu'il apparaît souvent, plus drôle aussi. Faut l'entendre tourner en dérision un article du Figaro où un industriel vend son jambon sans antibiotiques ou raconter ce départ du Parti Socialiste. Mais ce qui fascine le plus, c'est le côté machine de guerre, comme ici à Lille quand Gérard Miller s'invite dans sa loge.
Il y a 10 fois trop de choses là-dedans. Alors, c'est peut-être juste une affaire de rythme. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et ça se remplit petit à petit, tu vois. Après, c'est illisible. Saint-Just disait que c'est la mémoire des ânes, les notes. Il n'est pas tort.
Ça, c'est pour votre intervention?
Oui, parce que j'écris pas le discours. Donc, je fais un plan comme ça.
Et comment vous suivez?
Pom, 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 hein?
Et comment vous allez le suivre ensuite?
Eh ben, quand tu l'as travaillé des heures, ce qui va être le cas de celui-là, tu l'as dans la tête. Il y a des trucs qu'il faut savoir. Il faut savoir commencer et finir.
La suite à 20h55 ce soir sur France 3. Et puis notez à 23h30 sur C8 les Globes de Cristal, l'une des cérémonies qui récompense la vie culturelle dans tous les secteurs. J'aime beaucoup cette cérémonie, c'est au Lido.
Isabelle Morini-Bosque.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Charlotte, oui.
Alors, on vous en avait déjà parlé dans les Express. Gaëtan Roussel prépare son retour.
Et ça ne sera ni en solo ni avec son groupe Louise Attack. Gaëtan Roussel a enregistré un album avec Rachida Brakni, un duo qui a pris pour nom Lady Sœur. Tout a commencé grâce au film de Sass en Sass que la comédienne vient de réaliser et qui sortira fin février. Gaëtan Roussel a co-composé un titre pour la bande originale qu'il a chanté avec Rachida Brakni. L'envie de faire tout un disque à deux est née de là. Le projet en duo sera publié le 14 avril prochain. Il y aura des titres en français, en anglais et en arabe. L'album s'appellera Accidentally Yours. Le premier extrait, Le temps passe, vient d'être dévoilé.
C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours.
Gaëtan Roussel, en duo avec Rachida Brakni, sorti de l'album le 14 avril prochain.
Vous savez qu'on le retrouve chez notre petite sœur, hein, sur RTL2, tous les vendredis soirs, à 19h, Gaëtan. Alors, il y a quelques jours, Jean-Louis Aubert était en compagnie de la famille Souchon.
Oui, c'est sur son compte Facebook que le chanteur des Insus a annoncé à ses fans la semaine dernière qu'il enregistrait une chanson pour l'album du Soldat Rose 3, écrit et composé par Alain Souchon et ses fils Pierre et Charles. Jean-Louis Aubert a publié une photo en studio avec ce message « Joli Sanchon avec les Souchons ».
Si vous n'avez pas pu voir la comédie musicale Le Rouge et le Noir, l'opéra rock, il n'est pas trop tard.
50 000 personnes se sont pressées au théâtre Le Palace à Paris pour voir la troupe. La dernière a eu lieu hier soir, mais la bonne nouvelle, c'est que Le Rouge et le Noir sera de retour sur scène le 15 novembre prochain jusqu'au 30 janvier 2018 à Paris. Ensuite, dès le mois de mars, Côme de The Voice 4 et sa bande partiront en tournée partout en France.
Les pastiches des lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pinjot, dont Laurent Gérard nous régale régulièrement le matin sur RTL, seront bientôt en librairie.
Il y aura 40 chroniques, certaines que vous avez pu entendre à l'antenne et d'autres écrites spécialement par Laurent Gérard et son complice Pascal Fioretto. Elles seront publiées le 15 mars prochain dans la collection Librio chez Flammarion, titre encore provisoire, mais lettres inédites à A.
Le cinéaste iranien Asghar Farhadi n'ira pas à la 89e cérémonie des Oscars à Los Angeles le mois prochain.
Oui, une décision prise en réponse au décret signé par Donald Trump. Le président américain a décidé d'interdire l'entrée sur le sol américain aux ressortissants et réfugiés de 7 pays musulmans, dont l'Iran. Asghar Farhadi est nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger pour Le Client.
Décidément, Céline Dion a un emploi du temps bien chargé en ce moment.
Oui, une semaine après avoir annoncé une tournée des stades en Amérique du Nord et en Europe, on apprend que la chanteuse va rejoindre The Voice, mais pas en France, aux États-Unis. Céline Dion intégrera la 12e saison fin février, elle l'a annoncé sur Twitter. Alors elle ne sera pas coach sur les fauteuils rouges, mais elle viendra conseiller les artistes de l'équipe de Gwen Stefani.
Merci beaucoup Charlotte, c'était des Express de Laissez-vous tenter. Monique Younes, on va partir au théâtre maintenant, grâce à vous, au Théâtre des Nouveautés. Très précisément à Paris, où se joue la nouvelle pièce de Francis Weber, Un animal de compagnie, et elle a comme particularité de mettre en scène un poisson rouge, un vrai.
Oui, je vous rassure, le poisson rouge n'est pas le seul en scène. La pièce tournerait vite en rond.
Oui.
Un animal de compagnie raconte l'histoire d'Henri, alias Stéphane Frey. Mm-hmm. Il est journaliste politique, marié depuis 20 ans à une architecte d'intérieur, mm-hmm. Christine, jouée par Noémie Delattre. Et à défaut d'avoir eu la joie et le bonheur de faire des enfants, Madame souhaite un animal de compagnie, un Yorkshire de préférence.
On dit que c'est un chien très intelligent, enfin en principe.
Oui, c'est ce qu'on dit. Et Christine le croit elle aussi, mais Henri se méfie des animaux intelligents et choisit d'offrir à sa femme un poisson rouge parce qu'un poisson rouge est, paraît-il, l'animal de compagnie préféré des Français. C'est statistiquement prouvé. Il est tellement fier de son poisson rouge, Henri, qu'il le met bien en valeur dans les salons, un environnement qui plaît tout de suite aux petits poissons.
Mais comment le savez-vous ?
Ben, il parle, écoutez.
Soyons honnêtes, je me sens pas trop mal. Le grand machin qui m'a amené ici n'a pas l'air dangereux, oui. Oui, je me sens pas trop mal.
Vous l'avez reconnu ?
Ah bah oui, ça c'est Junio.
Bien sûr, Junio est la voix du poisson rouge. Il parle, mais ne comprend pas ce que les humains disent. Ainsi, on a décidé Francis Weber qui signe le texte de la pièce et sa mise en scène.
Gérard Junio a refusé de se mettre dans le bocal pour des raisons qui m'échappent. Et donc, en voix off, il commente, mais c'est l'incompréhension totale.
Pourquoi lui en particulier ? Il a une tête de poisson rouge.
Je vais lui dire. Non, en fait, il a joué Pignon dans ma pièce précédente, Cher Trésor, puisqu'il s'appelle Pignon, le poisson rouge. Pignon, qui est un personnage qui, au départ, a à peu près une vie aussi plate que celle d'un poisson rouge. Et petit à petit, il y a ce que les Américains appellent l'arc, c'est-à-dire que le personnage évolue, il devient un héros. Et d'une certaine manière, Pignon, le poisson, devient une espèce de héros à la fin.
Mais avant que Pignon, le poisson, ne devienne un héros, il va provoquer des drames entre Henri et Christine. Cette dernière ne décolère pas que son mari ait pu lui acheter un poisson rouge. Elle veut le rendre, qu'il le jette dans les toilettes, qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais elle ne veut plus le voir. Elle menace de divorcer, de se venger. D'ailleurs, elle appelle un amour de jeunesse, un écrivain raté, interprété par Philippe Vieux. Mais les témoins de notre jeunesse deviennent des témoins à charge quand on vieillit. C'est ce que laisse entendre Francis Weber.
Je le pense, parce que c'est drôle, Churchill a dit une chose qui est terrible pour les histoires d'amour. Et il a dit, quand vous fumez un cigare, s'il s'éteint et que vous le rallumez, il n'a jamais le même goût. Et c'est terrible, parce que c'est vrai. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes amoureux, vous vous séparez, et au bout de 2-3 ans, vous dites, peut-être qu'on peut recommencer. C'est très rare que ça marche.
Alors, le poisson sème la discorde ou la réconciliation du couple, finalement?
Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On est chez Francis Weber. Hein, alors, la comédie ne va pas sans complications, se mêle à l'intrigue un milliardaire russe, une call girl caucasienne, un enfant illégitime. Le tout est agrémenté de quelques pics sur le Festival de Cannes et des considérations sur l'instabilité politique du monde qui donne à Francis Weber...
une impression, si vous me pardonnez l'expression, de bordel insensé. Que ce soit Trump aux États-Unis ou ce qui se passe avec ses primaires, on ne sait plus très bien où on est, dans quel... C'est vrai, en fait, ça n'est plus un monde de doctrine, notre monde. Il y a une expression américaine que j'aime beaucoup qui est « to play it by ear », qui veut dire « le jouer à l'oreille ». Et j'ai l'impression que la politique doit se jouer à l'oreille maintenant, plus qu'avec des doctrines. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, en fait.
Ça vous surprend, ça vous...
Ça m'inquiète.
Alors, pour voir un poisson rouge se battre comme un chien...
Je me suis battu pour pas toucher le fond. Et ça va mieux maintenant. Mais ce que j'ai fait, aucune bête au monde n'aurait pu le faire.
Voilà, il faut vous rendre au Théâtre des Variétés, voir un animal de compagnie de Francis Weber avec la voix de Gérard Jugnot. Vous avez jusqu'au 30 avril, si ça vous chante.
Bien entendu.
Ça se termine pas en queue de poisson ?
Ben, je ne vous le dirai pas, Isabelle. Il faut aller au Théâtre des Variétés.
Surprise, surprise. Dans quelques instants, ce sera celle de Bernard Lehu avec le deuxième roman de Mathieu Ménégo qui paraît aux éditions Grasset.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h22, très bonne journée à tous. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous avez lu le deuxième roman de Mathieu Ménégo, Un fils parfait. Alors il y a 2 ans, vous aviez été emballé par son premier livre, Je me suis tué. Et vous êtes à nouveau...
Je me suis tué. Elle s'est tue.
Oui. Et vous êtes à nouveau très enthousiaste.
Ben oui, quel bonheur de voir un auteur confirmer le talent qu'on avait cru déceler dans son coup d'essai. Et comme dans Je me suis tue, donc, qui vient de paraître, je le signale, en poche chez Point, il donne Mathieu Ménégo la parole avec une justesse remarquable à une femme. Mais alors que sa première héroïne était embarquée dans un engrenage cauchemardesque en taisant une terrible vérité, son viol par un inconnu, Daphné, l'héroïne du nouveau roman de Mathieu Ménégo, Un fils parfait, va connaître le même engrenage, cette fois-ci en clamant, elle, une vérité que personne ne veut entendre.
Et alors, quelle est cette vérité ?
Eh bien, l'inceste, les actes sexuels que son mari, Maxime, inflige à leurs 2 filles au commencement de ce roman, une histoire vraie.
J'ai rencontré une amie à qui il est arrivé une chose épouvantable, qui m'a raconté ses histoires, et je me suis passionné pour, effectivement, ses affaires. Donc, je suis parti uniquement d'une situation de départ, hein. Tout le reste est romanesque, ne serait-ce que parce que je n'avais pas envie de placer cet ami dans une situation difficile. Donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des policiers, des psychologues, des magistrats, des avocats, un procureur, et je me suis lancé dans l'écriture de ce roman.
Et comme dans le précédent, Mathieu Ménégo imagine donc un engrenage fatal à son héroïne, découvrant le monstre qui partage sa vie, qui était pourtant l'homme qu'elle aimait, qu'elle admirait. Daphné tente de sortir ses filles des griffes de leur père criminel, de le dénoncer. La machine policière et judiciaire censée l'aider va se retourner contre elle, la piéger, la broyer. Une descente aux enfers dans laquelle le lecteur, aux côtés de Daphné, est précipité avec effroi sous la plume assez impitoyable, je dois le dire, de Mathieu Ménégo.
Mais là, elle est face à un manipulateur expert. Son mari, Maxime, est supérieurement intelligent. Et comme elle lui a confié qu'elle avait des doutes, qu'il a balayé d'un revers de main, il a eu le temps de s'organiser. Et donc, il est entièrement préparée à se défendre, alors qu'elle n'a pas commencé à se dire qu'il fallait qu'elle s'échappe. Quand elle s'échappe, c'est trop tard.
Alors, Daphné parviendra-t-elle à faire éclater la vérité, à sauver ses filles, à sortir du cauchemar? Je vous laisse le frisson de découvrir le scénario magistral développé par Mathieu Mélégo, mais aussi grâce à son travail de documentation, vous aurez la stupéfaction d'apprendre, ça a été mon cas en tout cas, que l'inceste n'est pas un crime dans notre code pénal.
Alors ça, c'est une découverte absolue, c'est-à-dire que les révolutionnaires ont fait disparaître l'inceste de ce qui était réprimandé par la loi, au même titre que le blasphème ou la sodomie, qui étaient considérés comme des affaires qui devaient être réglées dans la sphère privée et qui n'avaient pas d'impact sur la société. Et donc, pendant 200 ans, l'inceste n'a pas été inscrit dans le code pénal et il est réprimandé au même titre que le viol ou l'agression sexuelle. Et j'ai mis un point final à ce roman début mars 2016. Et le 14 mars, il y a eu une ordonnance qui réintroduit le qualificatif incestueux dans le code pénal après des années et des années d'efforts des associations de victimes de l'inceste qui voulaient absolument que ce crime soit reconnu, soit qualifié. Pour autant, ça n'est qu'un adjectif et il n'y a pas de peine spécifique ou additionnelle par rapport au code pénal actuel. Alors que c'est pas le cas ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en Italie.
Mais écoutez, c'est stupéfiant. Est-ce qu'il y a d'autres révélations tout aussi surprenantes dans ce roman ?
Ah bah oui, les opérations cagoule, comme certains policiers les nomment discrètement, et donc ça existe.
Ça existe. Et ce sont des actes très isolés, mais en tout cas j'en ai entendu parler. Des policiers cagoulés, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur le fait qu'ils sont représentants d'une forme d'autorité qui, énervés par le fait qu'un bourreau, que quelqu'un qui bat son épouse, soit remis en liberté, vont lui donner une leçon en lui disant « je te conseille de te tenir tranquille parce que j'aimerais pas te revoir ».
Voilà, Mathieu, ben, je vois que vous êtes tous sur le flanc. Eh oui. Voilà. Eh ben, tout ça, vous allez le découvrir et puis suivre cette intrigue absolument addictive dans Un fils parfait chez Grasset, le roman de Mathieu Mélégo. C'est dans toutes les bonnes librairies à partir de mercredi 1er février.
Ça fait visiblement un roman réussi. On se dit qu'il y a déjà aussi un scénario de film, Stéphane.
Ah, voilà. Il y a des contacts déjà, on a confirmé Mathieu Mélégo.
Seul contre tous, qui paraît chez Grasset, Un fils parfait est le titre du livre. Dans quelques instants, on se retrouve pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Cher Stéphane, avant de nous séparer, pouvez-vous nous dire à quel grand magazine américain Jackie Kennedy a accordé l'entretien qui sert de trame au film ? S'agit-il de Life ou de Time ?
Il s'agit de Life.
Voilà, vous nous avez appelé au 3210.
Mes amis, j'ai été élu ce soir et je vous remercie. Ah, vous n'aviez pas fini ?
Non, mais ça ressemble à la soirée télévisée d'hier.
Nous nous effaçons.
Nous nous effaçons. Rappel, effectivement. Tout va bien ?
Bah, tout va très bien, oui.
Pas trop fatigué ?
Mais non, pourquoi ?
Vous avez dû faire comme moi du sport toute la journée. Hier.
Pas vraiment, non.
Voilà, moi, je suis crevé. 3 heures de tennis hier matin devant C8. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? 1 heure de hand devant TF1. 1h30 de foot hier soir devant Canal+. Heureusement qu'il y avait les primeurs, sinon je ne me serais pas levé de mon canapé. Je vous le dis tout de suite.
Donc, le prix d'Amérique aussi.
Ah bah, le prix d'Amérique.
Ah bah, oula, ça galopait.
Oh, vous le faites bien, le petit ouh. J'aime beaucoup. Ça donne une autre couleur au personnage.
Bon, vous la commencez, cette émission.
Merci, on y va. C'est parti. Bonne semaine.
Bonne semaine.